Je suis Françoise Vergès de la Décoloniser les Arts. On est dans la troisième séance de, un peu de cette série qu'on a intitulée un peu sur la question d'inventer un musée décolonial. Donc les premières séances, pour celles et ceux qui n'y étaient pas, ça a été une visite du musée, de l'ancien musée colonial, aujourd'hui musée de l'émigration. Pas tellement de s'intéresser à son exposition permanente, mais déjà à son bâtiment. Le bâtiment étant lui-même une archive coloniale extrêmement puissante, on peut dire. Et donc ses bas-reliefs et ses fresques, et puis une visite de l'exposition Paris-Londres. Mais c'était vraiment autour de qu'est-ce que ça veut dire ce musée. Et puis d'un monument qui était en face, qui est un monument à un gars de l'armée qui s'appelait Jean-Baptiste Marchand, qui est un criminel et qui a son monument dans Paris. Donc de la même chose, qu'est-ce qu'on fait de ce monument, comment on traite ce monument. La deuxième séance a été de revenir sur ces questions et de voir un petit peu, donc de voir ce que c'était que ces musées qui étaient là. On le redit, hein, le musée est absolument un des piliers du récit national, et on peut ne pas y aller, mais lui, il vient à nous. C'est-à-dire qu'il énonce un récit, et même si on n'y va pas, il est là, il le fait pour nous. Et ensuite, on emmène des tas d'enfants tous les jours dans les musées. Et même si les enfants se désintéressent au musée, mais le fait qu'ils ne voient rien dans le musée qui concerne leur histoire, l'histoire de là où ils viennent, leur fait passer un message: vous n'appartenez pas à cette nation. Donc le musée, il est quand même, c'est un outil idéologique extrêmement important. C'est pour ça qu'on s'y intéressait. Mais on voulait aussi, ce que nous voulions, c'est passer à l'autre étape, c'est-à-dire de faire le saut dans l'imagination. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on ferait si on faisait quelque chose qui serait de mettre en scène des récits avec, en empruntant à toutes les procédés, et qui serait totalement différent de ce qu'on voit. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples de musées alternatifs, de musées décoloniaux, il n'y en a pas en France, donc c'est déjà une question. La France, n'oublions pas, c'est le pays qui invente le musée. Le Louvre étant le premier musée public dans l'histoire. Il y a des cabinets de curiosité, il y a des collections d'aristocrates, des collections d'églises, mais il n'y a pas de musée ouvert au public. Et le Louvre est le premier musée qui se pose ainsi, comme musée public. Donc, avec au départ un musée qui se voulait citoyen, qui est aujourd'hui la plus grande institution. Bref, de vous montrer quelques exemples. Ensuite, vous verrez, il y aura des groupes avec une série de questions qu'on a imaginées ensemble, et que pour un peu justement passer, faire ce saut dans imaginatif de qu'est-ce que nous ferions si nous avions un musée à construire, mais à construire à partir de haut en bas, c'est-à-dire même le bâtiment, tout cela. Et est-ce qu'on l'appellerait musée ? Enfin, vous verrez les questions. Alors ça sera pendant 40 minutes en groupe, ensuite on se retrouvera ensemble pour justement voir ce qui se dégage de ces discussions en groupe, de ce qui s'est dégagé, et puis on parlera de la dernière séance qui sera sur ce thème, qui aura lieu le 15 décembre, et on essaiera de travailler ensemble collectivement à quelque chose qu'on imaginera ensemble. Donc voilà comment ça va se dérouler. Alors le PowerPoint, c'était justement pour montrer que si en France il n'y a pas de musée tellement de ce genre, même s'il y a eu des expositions qui tentent des questions, mais il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de musée en France qui se soit entièrement, qui se sente concerné entièrement par un autre récit. Et en fait, le musée a été aussi inventé, d'une part, évidemment, pour le récit national, mais aussi la technologie coloniale. Et en fait, c'était un outil pour réécrire le passé et préfigurer l'avenir. Donc ça, c'est vraiment, on le voit, le musée est aussi un outil vraiment de colonial. Alors, on peut se poser des tas de questions, mais je vais vous dire. Donc là, voilà. Qu'est-ce que c'est ces musées alternatifs et décoloniaux qui ont existé et qui racontent des résistances et des luttes en mettant en scène des documents, des archives, des sons, des images, des objets, pour raconter des histoires qui ne sont pas dans les musées nationaux et qui utilisent des formes transdisciplinaires très souvent, qui ne se focalisent pas simplement sur l'objet, par exemple, qui peuvent utiliser le théâtre, le cinéma, l'art contemporain, la performance ou la recherche. Donc il en existe. Alors les problèmes auxquels font face ces musées, c'est la question de l'appropriation culturelle, parce que malgré tout, on montre, mais comment on va montrer ces objets? Est-ce que ces objets, du coup, deviennent des objets détachés de leur contexte social et culturel? La question de la marchandisation, comment on fait du social et de la résistance un objet de spectacle? Est-ce que on peut montrer la résistance sans le transformer, la transformer en objet de spectacle. Les temporalités de l'institution, parce que aussitôt que vous avez une institution, ben vous avez une lenteur, la bureaucratie, et la temporalité des problématiques, c'est-à-dire qu'en fait, même ce que vous avez fait, à un moment donné, ça peut être sujet à révision, à une complexité, à l'inattendu. Je veux dire, ça ne peut pas rester fixe. Si on est dans une dynamique décoloniale, même une histoire qu'on pense avoir faite différemment, elle peut trouver au bout d'un moment, il y a des récits nouveaux, il y a des archives nouvelles qui sont trouvées, ben, il faut réviser le récit. La question de la restitution et de la réparation, comment se travaillent ces questions? Comment on maintient les liens avec les communautés concernées, c'est-à-dire que c'est pas au début on travaille avec elles, puis après ben c'est fini, elles ont fourni, elles ont été les natives informants comme on dit, puis après maintenant bye bye. Et comment préserver cette possibilité de révision et de réinterprétation malgré tout. Donc comment, mais qui se pose à toutes les disciplines, hein, c'est-à-dire à partir du moment où on fait un récit, comment ce récit reste ouvert. Ça peut se poser même dans des livres d'histoire ou d'anthropologie. Alors qu'est-ce qu'on fait aussi face à la marchandisation du social, au spectacle de la misère et la misère du spectacle? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tourisme hein, qui s'est mis en place, qui est d'aller visiter, c'est-à-dire de faire toucher le social et la misère en organisant des visites touristiques dans les bidonvilles, dans les endroits pauvres. Alors là, c'est aux Philippines, donc la photo est parlante, hein, j'ai pas tellement besoin... De la commenter. Là, vous voyez aussi. Et c'est un tourisme qui marche beaucoup hein, en Asie, qui un peu aussi au Brésil, visiter les favelas ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se construit avec une économie. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire, bon, voilà, il y a une économie qui se construit autour de ça. Mais donc, on peut se poser la question. Là, c'est donc, par exemple, dans le cimetière de Mani, où vivent énormément d'habitants. Les gens visitent. Donc, il y a des visites touristiques qui se font. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ensuite, on peut penser à une autre question qu'on peut se poser. C'est, par exemple, le projet du Grand Paris et d'autres projets urbains de gentrification par la culture, et le culturel, pardon. Donc, comment l'art et la culture participent à la gentrification? Et comment l'art et la culture peuvent constituer des résistances à la gentrification? Les deux questions peuvent se poser pour nous. Donc des exemples de musées alternatifs. Alors à Buenos Aires, hein, on le sait, il y a eu pendant la dictature militaire, cette école qui était l'école navale militaire entre 1976 et 1983 a été un lieu clandestin de torture, de disparition et d'extermination. À peu près 5000 personnes sont passés par cette école et ont disparu et été jetés vivants dans l'océan Atlantique qui est proche, dans ce qui a été connu sous le nom de vol de mort, death flight. Donc des communautés, des parents de disparus, des communautés ont investi cette école, ont obtenu que cette école soit fermée comme école navale et qu'elle devienne un lieu donc, de mémoire. Donc voilà, c'est pour un... La maison unie pour un génocide et la prison. Donc on voit derrière voilà, les écoles de la mécanique et de l'armée. Donc là, c'était les personnes ont organisé, les communautés, un mural où il y a toutes les photos qui ont pu être rassemblées des personnes qui ont disparu dans cette école. Et à côté de l'école, juste à côté, tout a été organisé là parce que c'est de là les avions, les hélicoptères passaient au-dessus de là et jetaient donc les personnes dans l'océan, vivantes dans l'océan. Donc ça a été organisé. Là, on voit, tout est expliqué sur tout un long, on marche le long de l'océan et il y a toute une série d'explications. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est Decolonize This Place à New York City qui lutte contre le art washing. Et la philanthropie toxique, ce qu'il appelle la philanthropie toxique, c'est-à-dire la version libérale des politiques de l'identité, la gentrification basée sur la culture et une identité monolithique. Donc ils sont très, très actifs, ils sont extrêmement actifs à la fois dans les musées, autour de tout ce que quand l'art et la culture constituent en fait des outils de pacification et de dépolitisation à New York City. Donc là, par exemple, c'est le jour de Columbus, hein, où on célèbre, Christophe Colomb, pardon, on célèbre, c'est Decolonize This Museum. Donc avec un tour, ils font des tours, là au musée naturel de l'histoire naturelle, et ils font un tour décolonial, de la question de décolonisation. aussi là la décolonisation de la ville elle-même. De nouveau, l'histoire naturelle, Abolish White Supremacy. Donc, ils font des manifestations devant ce musée. Aussi contre la gentrification, là, du Bronx. Où là, nous respirons ensemble, décolonisons cet endroit. Donc, c'est toute une série d'actes. Que le musée donc est attaqué pour sa contribution à la colonisation et au racisme. On a un autre exemple, c'est le musée de la mémoire et des droits humains à Santiago de Chile, qui a été aussi constitué après la dictature de Pinochet pour rendre visibles les violations des droits de l'homme commises par l'État du Chili et pour rendre la dignité aux victimes, à leurs familles et stimuler la réflexion et le débat sur l'importance du respect et de la tolérance. Donc c'était que faire après la dictature de Pinochet, pour comment rendre visible ce qui s'était passé, pas simplement dans des livres d'histoire, mais comment raconter aussi cette histoire par des documents et des images. Donc là, on a, c'est aussi des choses comme ça qui se passent dans ce musée. Donc par exemple, là, le musée a organisé les funérailles de victimes de corps qui avaient été donc jetés dans une... Je ne trouve plus mes mots, moi, en français, pardon. Dans une fosse commune, vous m'excuserez. Et qui, donc, là, le musée organise les funérailles collectives des corps qu'on a retrouvés. Donc, le musée prend en charge cela. Donc, ce n'est pas simplement de raconter une histoire, c'est de la forme de réparation, de restitution que le musée prend en charge. C'est aussi, là, par exemple, de faire une communauté, l'association des familles de détenus disparus, et des organisations paysannes dans un endroit, Longen, qui a connu un massacre. Et donc là, ces formes qui sont très connues dans l'Amérique du Sud et qui ont été faites par une communauté de femmes et qui sont exposées comme justement donc, la représentation de cette histoire. Donc par des formes totalement différentes que le tableau ou même la photo. Et donc ça fait partie. Donc là, d'essayer d'imaginer comment parler de cette histoire. Il y a aussi ce que les banques culturelles au Mali, où par exemple un des fondateurs explique que construire dans le village un petit bâtiment à l'intérieur duquel les habitants peuvent déposer des objets culturels de valeur en échange d'un microcrédit. L'importance du prêt n'est pas déterminée par la valeur esthétique de l'objet, mais plutôt par sa valeur historique et culturelle. Ce microcrédit sert à financer des activités génératrices de revenus et la première banque culturelle a vu le jour en 1997 à Fombori, les deux suivantes en 2003 à Dimba et Kola, puis la dernière en 2007 à Denegoro. L'objet déposé reste la propriété de celui et de celle qui l'a déposé et nous l'accompagnons également par de la formation. Donc l'objet est prêté, l'objet par sa valeur en fait d'usage, la valeur qu'il a pris, pas la valeur esthétique, mais la valeur qu'il a, le poids qu'il a dans l'échange culturel, dans l'organisation sociale de la communauté. C'est ça la valeur qui est donnée, et non pas donc comme les musées occidentaux par ce qu'on appellerait une valeur esthétique. Et donc ça, c'est ces banques culturelles qui existent, qui sont des formes de musées, on pourrait dire. Alors avec des objets qui sont à l'intérieur. Un autre exemple, c'est ce musée du District 6. Le District 6 était un des quartiers les plus mélangés de Cape Town, où vivaient notamment des descendants des esclaves malais, hein, puisque beaucoup de malais ont été amenés en esclavage en Afrique du Sud, et puis des descendants de malgaches, puisque les malgaches aussi ont été amenés en esclavage, ont été déportés en esclavage en Afrique du Sud, et puis il y avait bon, des tas de personnes, vraiment, c'était un des espaces les plus divers, justement. Et l'opposé exactement, évidemment, de ce que le gouvernement d'apartheid, en 48, avait voulait. Hein, c'était exactement le contraire. Donc le musée, le 11 février 1936, le quartier va être déclaré zone blanche en vertu d'une loi de 1950. Et en 1982, plus de 60 000 personnes vont être déplacées de force. Donc dans des zones isolées, dénudées, des Cap Flats et leurs maisons du district rasées. Et effectivement, encore dans les années 90, on voyait au plein milieu de la ville un endroit totalement vide, qui restait vide, comme je sais pas moi, comme si tout le quartier là serait rasé, quoi. Il resterait complètement rasé, vide. Et il fallait non seulement détruire, mais ne rien reconstruire pour presque par le vide essayer d'effacer la mémoire de ce quartier. Donc après l'apartheid, les gens, la communauté s'est retrouvée, quoi. Et a demandé à refaire, en travaillant avec les personnes qui avaient été expulsées, comment on va aller raconter l'histoire de ce quartier qui avait disparu, entièrement disparu. Donc là, c'est le musée lui-même, hein, c'est le bâtiment. Là, c'est justement, est-ce que c'est un musée ou une place où retravailler la mémoire? C'est les questions qui sont donc posées. Et là, c'est des images du quartier à l'époque. Donc de vous montrer que c'était un quartier extrêmement vivant, avec les personnes qui viennent témoigner. Alors là, c'est justement ce qu'il y a dans le musée lui-même, hein, de là, comment un salon de coiffure, comment c'était, des valises avec les familles. Et donc c'est constamment retravailler avec les communautés. C'est constamment rediscuter. Il n'y a aucune installation qui est fixe, comme au musée de l'immigration. C'est constamment retravailler avec les familles, avec les communautés. Ça ne reste pas fixe. Il y a énormément d'enfants qui viennent pour que justement contribuer à la connaissance de ce quartier qui avait disparu et dont leurs parents ou grands-parents étaient originaires. Là, c'est en Inde un projet qui a été de dialoguer entre les artistes de peuples autochtones. Comment travailler? Et donc, certains ont imaginé, ça c'est par exemple un artisan qui imagine la porte du musée qui serait gardée par un lion jour et nuit et qui est tenue par des éléphants et décorée par des cerfs. Merci, pardon. Je vois. Excusez-moi. Et donc c'est vraiment à partir d'une histoire de son peuple où la lune est entourée donc d'étoiles et le soleil est toujours tout seul. Donc voilà, c'était comment le musée contiendrait des histoires. Donc c'est une imagination d'une architecture. Donc là on n'est pas dans le musée à l'intérieur, mais que l'architecture même elle-même donne un message de qu'est-ce qui va être dedans. Donc l'importance de l'architecture, l'importance du bâtiment, que le contenant est aussi important que le contenu. Il y a pas, donc c'est tout à fait une critique contre les grands gestes architecturaux d'appeler un grand architecte pour faire un musée sans tenir compte de ce qu'il y aura dedans. Et du coup, le contenant en général pose des problèmes énormes pour le contenu, comme on sait beaucoup en France, hein, que ce soit le Quai Branly, mais aussi le musée de Gibaou ou d'autres musées qui posent des problèmes ensuite pour le contenu. Là, c'est quelqu'un qui peint le musée, ça, c'est une femme qui peint le musée avec des scènes traditionnelles. Alors, elle l'imagine comme un hôtel où il y aurait toujours des musiciens constamment qui joueraient de la musique. Elle a mis aussi un éléphant et un cheval qui font partie du festival. Donc voilà, et ça existerait dans le musée. Donc elle imagine quelque chose de vivant dans le musée avec de la musique constamment et toute une relation avec donc des formes. Donc c'est vraiment tout à fait d'autre chose, hein, c'est vraiment. Là, c'était aussi quelque chose, ça c'était Okwuenvesor, hein, qui avait fait le Short Century sur la question de la mouvement des indépendances en Afrique en 45 et 94 en disant que c'était toujours montré de la manière par le nord et de comment ça serait montré si on le montrait du sud. Là, c'était un musée auquel j'avais travaillé ou auquel on avait proposé que ce soit un musée sans objet, c'est-à-dire qu'il ne partirait pas de l'objet pour raconter l'histoire, mais qu'il partirait de l'histoire pour voir ensuite quelle forme, quel procédé serait emprunté au théâtre, au cinéma, à la musique, au concert, pour construire une installation, puisque nous sommes dans des endroits où il n'y a pas d'objet témoin pour des tas de personnes de la population. Il n'y a pas d'objet. Donc là, et on avait fait beaucoup de choses en créole pour montrer aussi que le créole pouvait absolument contribuer à des pensées extrêmement complexes. Ensuite, il y a il y en a encore deux autres. Ça, c'est un musée qui s'est fait à Guantanamo, parce que Guantanamo, disent ceux qui ont fait ce musée, symbolise la violation des droits, le racisme et la mentalité impérialiste, l'état d'exception, la désamination et la disposabilité des corps racisés. Donc, comment parler de ça? Comment parler de ces choses-là dans un musée? Comment ne pas faire... pour eux, ce qui était le souci, c'était que Guantanamo disparaîtrait. Puis on serait oublié. Alors que ça a été un endroit extrêmement important. et c'est évidemment qui continue. Donc c'est créé pour rappeler l'existence du camp de détention et de la prison nord-américaine, et le musée abrite aujourd'hui le Jumal Aldo Sarai Center for Critical Studies. Alors par exemple, là j'ai mis juste un document, c'est un artiste qui reprend l'interrogation de quelqu'un qui est soupçonné hein, d'être un membre d'Al-Qaïda, on ne le sait même pas. Et donc on voit, il reprend un mémo qui a été utilisé pour justifier la torture, pour justifier le waterboarding, etc., pour justifier jusqu'à la Cour suprême, comment la torture a été justifiée. Et donc c'est expliqué comment, à partir de ce document et de cette archive. Donc là on voit l'utilisation d'un document gouvernemental pour parler de quelque chose. Après le musée, je crois que c'est le dernier exemple, le musée du capitalisme qui a été créé par deux artistes, Timothy Firstnow et Andrea Steve, et qui organise des expositions pour perturber les frontières entre réalité et fiction. Alors le musée du capitalisme, ça a été départ, on serait dans un moment post-capitaliste et on parlerait du capitalisme comme une chose qui a, comme je sais pas, il y aurait un musée de l'archéologie. En Turquie, voilà les choses qui seraient passées au 5e siècle. Donc, ils ont imaginé qu'est-ce que ça serait de faire un musée du capitalisme une fois que le capitalisme serait mort. Bon. Et la première exposition a eu lieu à Oakland, quand on sait que c'est un des grands ports industriels de Californie, de la lutte de la classe ouvrière noire, qui est le lieu de naissance de Black Panther Party et qui est aujourd'hui en voie de gentrification. Et alors là, par exemple, c'est comment la privatisation des prisons, donc c'est comment le capitalisme est lié absolument à l'existence de prisons, la création de prisons. Donc de penser le musée du capitalisme et son lien avec les prisons. Là, c'est encore aussi une image, ça c'est les migrants. Ça c'est les cravates des cadres, donc avec l'explication, l'importance de la cravate. Là, c'est en fait ce qu'on voit sur les voitures de police, les gyrophares, merci. Et alors la question qui se posait, qui montre qu'un musée décolonial doit être constamment dynamique, c'est que ce musée qui a été vu du capitalisme, vu comme alternative subversif au début, a fini par être perçu comme n'étant plus assez politique et une célébration de la marchandise, devenue lui-même une marchandise. Et comment un musée pouvait faire comprendre l'essor du capitalisme sans aborder aussi la question essentielle, le profit et l'accumulation sont-ils les fondements inévitables de la société, quoi. Et en sollicitant des dons d'objets du capitalisme, le musée ne reproduisait-il pas exactement donc la logique du capitalisme, d'accumulation d'objets. Donc voilà, c'est un peu cela, vraiment très rapidement, hein, parce qu'il y a vraiment des centaines de musées qui se posent ces questions dans le monde. Et si en France ça n'existait pas, on pourrait se poser la question de pourquoi il y a si peu de choses, de tentatives hein, en France sur des événements même contemporains. Parce que là on voit les droits humains au Chili ou le musée à Buenos Aires sont sur des questions actuelles ou le district 6 c'est sur des questions actuelles. Alors que donc en France il y a toujours un côté où le musée transforme toutes les choses en histoire passée qui n'aurait plus du tout d'incidence sur aujourd'hui. Donc comment on parlerait à partir du contemporain. Comment on ferait un musée à partir du contemporain des questions qui se posent aujourd'hui. Donc voilà, c'était assez rapidement quelque chose. Donc là, il y a quatre groupes, combien ? Alors, vous avez Léla et Véronique qui vont avec lesquelles, parce qu'on a fait un petit questionnaire pour justement travailler sur comment quel musée on imaginerait. Donc là, il y a un groupe qui va se faire avec Véronique et Léla. Ensuite, un groupe qui se fait avec Catherine et Mohamed. Ensuite, il y a un groupe avec Jalil et Fabienne. Fabienne est là, avec Jalil. Donc, c'est comme ça, hein, il n'y a pas besoin de faire des grandes transformations de la salle. Et le quatrième, Léonce, qui va s'occuper des personnes dans les canapés et les fauteuils. D'accord. Donc en fait, vous avez 40 minutes. Vous allez voir les questions, hein, elles sont là. Les questions qui vont être posées pour en discuter, qui sont des questions vraiment, comme je dis, d'essayer de passer au stade suivant, c'est-à-dire qu'est-ce que serait si on avait la possibilité de l'imaginer, ce musée. Comment on le ferait? Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Qu'est-ce qu'on raconterait? Donc voilà un peu les thèmes hein, qui vont être les questions que vous allez travailler ensemble pendant 40 minutes et puis on se retrouve pour une discussion générale et ensuite on discutera de la séance suivante. Donc on essaye vraiment là de... Nous sommes le comité de création de ce futur musée. Voilà. Donc un jour, on aura participé à la création de ce nouveau musée. Les questions, vous les voyez, un musée pour quoi faire? Un musée sur quoi? Quel thème ferait urgence en France aujourd'hui? Un musée pour qui, pourquoi? Quel genre de musée voudrions-nous? Voilà. À tout à l'heure.
Moi, je dirais que la question de fond, en fait, c'est de voir comment on traite de la mémoire.
Alors, je vous fais juste une parenthèse. Ouais. Pour tout le monde, on est beaucoup, et il y a beaucoup de gens là-bas aussi, donc il faut vraiment qu'ils puissent entendre un petit peu.
Donc, je crois que la question, je te rejoins, et non, la question, c'est comment on traite la mémoire, qu'est-ce qu'on conserve, et est-ce qu'on conserve quelque chose, ou est-ce que tout reste perpétuellement en questionnement. Et donc, pour aller sur la question du musée, sur quoi, moi, je trouve que ce qui serait intéressant, c'est un musée, comme elle disait tout à l'heure, dynamique, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'échange, l'histoire des échanges entre les populations tout au long de l'histoire. Parce que je crois que de toute façon, on a besoin de quelque chose sur lequel faire socle, réfléchir, même si c'est pas, on ne serait pas dans l'idée du symbole et de la symbolique, mais en tout cas, avoir des symboles, notamment de ce qui peut avoir fonctionné, pour pouvoir faire mieux, dépasser, revenir, repenser, etc. Donc je suis d'accord sur le fait qu'on doit penser à la mémoire et ce qu'on en fait, mais toujours d'un point de vue dynamique. Et pour moi, un musée, ce doit être un endroit où on montre les échanges, comment ils ont évolué et comment on peut les faire évoluer encore.
Est-ce qu'on est capable, dans un musée, d'entendre à la fois plusieurs courants de la même histoire, parce qu'en fait c'est la première chose qui existe pour n'est-ce pas, et te dire que en fait on n'essaie pas de créer une vérité absolue, on pourrait passer comme ça, mais qui se alimente tout le temps avec des nouvelles perspectives.
Ouais.
Et juste pour la question de quand il parlait des objets et de toucher, moi je me disais que il y a la question en architecture, en tout cas, sur la ruine. Qu'est-ce qu'on fait de la ruine? Est-ce qu'on la conserve? Est-ce qu'on la laisse disparaître? Et je trouve que la question de l'objet, c'est de se dire que si même il y avait des objets avec lesquels on pourrait avoir une interaction, c'est quand même se dire qu'en fait, au fil du temps, potentiellement, ils disparaissent. C'est comment... Est-ce que c'est grave d'avoir un musée aussi avec des objets qui n'existent plus, d'admettre qu'à un moment, le fait même de notre interaction avec ces objets fait qu'un jour, ils vont disparaître? Et est-ce que c'est grave aussi de parler de quelque chose qui n'est plus là? Parce que potentiellement, il y a des histoires qui ne seront plus racontées par des objets, ni par des photos, ni par rien. Et comment on raconte un récit de quelque chose qui est plus, soit qui est en ruine, mais qui est voué à disparaître?
Et comment on fait pour raconter l'immatériel?
Oui.
Parce que...
Déconstruire l'identité nationale aussi, c'est de comprendre d'où ça vient et quel est l'intérêt pour la France de créer cette identité nationale et du coup de le mettre en rapport avec toute la politique d'intégration, d'assimilation en France et comment on essaie de gommer les différences. Et donc ça revient à écho à l'universalisme républicain et tout ça.
C'est sûr que... Il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ce qui existe, quoi. Est-ce que tout est à balayer? J'étais le week-end dernier, il y a Françoise Gerti et d'autres membres de Décoloniser les Arts qui faisaient des lectures de textes autour des abolitions de l'esclavage dans le château de la Malmaison, le château de Napoléon, ce qui en soi est déjà un beau pied de nez. Et au-delà de ça, c'était une performance déambulatoire et on se baladait parmi toutes les œuvres la belle vaisselle, tout est à la gloire de Napoléon. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Et là, ça devient intéressant des moments où en fait, on raconte cette histoire-là à l'intérieur de ce musée-là, parce qu'on montre tout, à la fois la belle vaisselle et tout ce qui va avec, et en même temps, on montre que, Napoléon... à plein d'endroits, il est à questionner. En fait, cette histoire est à questionner. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces objets-là? Est-ce qu'on rase tout? Ou est-ce que c'est pas justement avoir cette histoire-là avec aussi en fait, toutes les zones d'ombre qui font qu'on a l'histoire avec toutes ses nuances?
Donc, à partir de là, vous voyez, c'est parce que les musées,
toute l'histoire du musée, ça a été de prendre des histoires et d'en faire quelque chose. Vous voyez, vous avez le mémorial de la Première Guerre, Paris, non, et ben, ils prennent l'histoire de la Première Guerre mondiale et ils en présentent quelque chose. Donc ils partent d'un fait, puis ils en présentent. Je me souviens qu'il y a des dessins, il y a des lettres de soldats, il y a des uniformes de soldats, il y a de la musique, il y a c'est pas qu'un seul truc, donc ils ont été inventifs. Hein. Mais ils sont partis d'un truc et puis ils disent voilà, on va raconter ça. Donc nous, par exemple, on parle des problèmes aujourd'hui, puisque la question d'une société française, c'est qu'elle est justement aujourd'hui beaucoup plus diverse que elle a été dans les années 50, par exemple, disons, et que du coup, il y a des questions racistes, etc., et il y a des questions du passé colonial qui est revenu en pleine figure. Donc on partirait de ça, et du coup, il faut faites un musée au sens de raconter cette histoire dans une installation. L'installation qui peut utiliser du récit oral ou d'autres choses. Ça serait par exemple ça le défi. Vous voyez, donc au lieu de partir d'un événement historique trop passé, on part du présent.
Mais c'est pour ça l'image de moi, l'élève.
Désolé, là, on arrête, là. Je sonne la cloche, là. Non, parce que vraiment, il faut qu'on se remette ensemble pour pouvoir échanger à tout le monde. Et bien, justement, là, vous allez restituer. Vous allez faire l'effort, voilà. Non, parce qu'on n'aura pas ce moment d'échange. Il faut qu'on l'ait. Parce qu'on n'est jamais... De toute façon, ce ne sont jamais des discussions complètement terminées. C'est toujours... Il y a toujours... Faudrait faire des ateliers entiers. D'accord ? Bon, alors, qui est prêt pour la restitution ? Quel groupe est prêt ? Vous êtes prêts ? Allez. C'est qui fait la restitution ? Courte, hein ?
Courte, précise, synthétique.
Ah, bah, d'accord.
Bonjour. Alors, si je reprends les questions dans l'ordre, un musée pour quoi faire ? Là, pour les questions qui sont ressorties, c'était surtout pour remettre finalement les histoires de vie et les personnes au centre de l'institution, peut-être plus que l'objet, en proposant de repenser la question du placement du corps au sein du bâtiment et de questionner la vision assez rigide qu'on a de cette dualité entre objet et corps et essayer de rajouter un petit peu de matérialité et reprendre peut-être l'idée de pouvoir toucher les objets et ressentir une histoire par le poids qu'on en ressent. Ensuite, oui, pour un musée pour raconter, il y a eu cette histoire de savoir pluriel qui est ressortie aussi, pour raconter des parcours de vie et peut-être avoir plus un musée de la personne qu'un musée de l'objet. Un musée pour une communauté dans lequel un ensemble de personnes puissent se reconnaître et donc un musée dans lequel on met en avant des histoires représentatives plus que des histoires exceptionnelles. Là, on a fait un parallèle avec les musées d'art et traditions populaires et les écomusées qui nous semblent avoir un petit peu réfléchi à cette question-là aussi. Si je prends ensuite la question sur un musée, sur quoi et sur quel thème, ici on a pensé à un musée éventuellement de la réparation, qui est donc un musée qui permettrait de passer toutes les étapes de reconnaissance du racisme et de vraiment agir pour travailler sur cette question du racisme. Un musée de la discrimination aussi, on a aussi imaginé aussi un musée de l'histoire coloniale, donc à mettre en regard avec ce projet de musée avorté qui a eu une histoire politique riche, qui était le musée de l'histoire française. Ensuite, un musée pour qui et pourquoi ? Là, on s'est demandé s'il fallait resserrer ou non le public bénéficiaire du musée. On s'est dit que ça dépendait du thème choisi. On s'est demandé si un thème pouvait ne concerner qu'une certaine partie de la population ou non. Si j'ai bien compris, globalement, retenu que c'était quand même plutôt l'idée d'un musée inclusif qui concernait tout le monde en termes de public. Et ensuite, quel musée voudrions-nous ? Là, il y a aussi la question de que fait-on des musées qui existent déjà ? On s'est dit que tout n'était pas forcément à balayer, qu'il fallait aussi mettre en avant l'histoire telle qu'elle était racontée aujourd'hui pour mieux la questionner, proposer la question d'un contre-musée. Un musée aussi donc où il pourrait se passer des choses. On essaierait de faire rentrer les arts vivants dans le musée pour proposer... un musée aussi de l'événement où on puisse faire venir les gens puisque semblerait-il que c'est l'événement qui fait venir les gens au musée. Et puis donc dans cette idée de ne pas tout balayer, on a évidemment aussi soulevé la question de la remise au centre de l'histoire de l'objet avec un ajout d'explication par rapport à la présentation d'un objet sur le cartel par exemple, en rajoutant une mention type objet volé par telle personne, et replacer donc l'objet dans une économie globale qui profite globalement à la culture qu'il a collectée, probablement aux dépens de la culture qu'il a produite. Voilà.
Merci. Quel autre groupe est prêt ?
Je commence, du coup ?
Oui. Okay.
Moi, j'ai pas noté du coup des réponses directement aux quatre questions, mais ce qui ressortait, c'était principalement le concept de transversalité. C'est-à-dire l'idée de partir d'un événement. Donc ça, c'est peut-être pour la question « Un musée sur quoi ?» Il y a l'idée de partir d'un événement pour retracer les fils historiques qui le nouent et qui l'expliquent. Donc, par exemple, on parlait des émeutes qu'il y a eu en 2005 à la suite de la mort de Ziad Ebouna, et on articulait cette violence policière avec la violence coloniale et esclavagiste. Et donc cette idée d'un point qu'on ferait éclater, et il y a l'idée de la forme d'une étoile qui a émergé. À la question un musée pour qui et sur qui, il y avait l'idée que effectivement les objets culturels, à partir du moment où ils sont publics, ils appartiennent à tous, donc cette question d'une certaine façon ne se pose pas, mais en même temps il y a la question de qu'on ressent la nécessité d'être dans des espaces dans lesquels on se sent chez nous, en fait, on se sent à l'aise. Et donc, il faut articuler ces deux choses entre elles. Et voilà, c'est ce que j'ai retenu.
Oui, il y a la question de la mémoire et de comment, à partir d'un instant T, on tire le fil d'une mémoire et des archives, et d'archives qui peuvent être des objets, qui peuvent être les corps, qui peuvent être sous plusieurs formes. Comment ça a une fonction aussi de projection dans le futur. Comment un instant T permet à la fois de lire et d'interpréter les différentes couches de l'histoire et les différents récits qui constituent l'histoire. C'est donc au final une fonction politique qui est celle qui va alimenter le citoyen d'aujourd'hui pour comprendre d'où vient l'histoire dont on parle, quelle qu'elle soit, et comment ça permet de se projeter dans l'avenir avec ces éléments. On a parlé du musée comme zone de contact. Il y a un anthropologue qui a travaillé sur cette question-là, qui met en relation les différentes parties prenantes, que ce soit les sachants entre guillemets ou les personnes qui vivent, qui participent à un événement et une question qui est traitée. On a beaucoup parlé aussi de représentation, c'est-à-dire qui représente quelle histoire, qui fait des choix dans ce qui est présenté dans cet espace. Alors on a beaucoup tourné autour du mot musée qui ne convient pas, mais on n'en a pas trouvé d'autres pour le moment. C'est plus le concept qui est justement cette, à la fois cette transversalité et puis ce fil dans le temps entre passé, présent et futur. On disait qu'il fallait que ça soit un espace safe où justement, quelles que soient les personnes qui entrent dans cet espace, elles y soient accueillies et les bienvenues avec leur histoire et leur discours, y compris de jeunes artistes qui interviendraient sur les questions qui sont proposées. On a parlé de musées privés aussi, on tournait beaucoup aussi autour de l'institution, mais au final, on ne peut pas attendre sur l'institution pour avancer sur les questions qui nous préoccupent. Même si les musées sont payés par nos impôts, même s'ils nous appartiennent, si on veut avancer sur des questions qui sont actuellement sous le tapis, qui sont celles qu'on voudrait aussi voir mises en débat, il faut que ce soit nous qui nous en emparions, avec éventuellement l'espoir que ça fasse changer le regard des institutions, mais c'est d'abord notre propre action. Et donc, avec des formes qui peuvent être itinérantes, qui peuvent être dans l'espace public, enfin, là-dessus, il y a plusieurs idées qui ont été avancées pour sortir du cadre institutionnel et rapprocher l'espace muséal ou l'espace d'histoire partagée, je ne sais pas comment dire, du quotidien et des personnes qui fréquentent l'espace public, qui partagent l'espace public. Est-ce que j'oublie quelque chose, Jalil ?
Moi, je vais commencer par la question qui m'a le plus intéressé, c'est voulons-nous d'un musée ? Hein, parce que ça implique pas mal de choses, ça pose quelque chose. Donc moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, sa nécessité et comment déplacer, comment casser sa place dans la société. Si j'ai cru entendre ça, c'était assez intéressant. Ce qui est revenu souvent, c'est la transversalité entre les peuples colonisés. C'est-à-dire, parce que si on pose la question d'un musée décolonial, il faut bien partir du fait que ces peuples-là ont été colonisés et quels sont leurs points communs. Sur quoi, sous quoi pourraient-ils être regroupés, ces histoires-là? Le lieu culturel de l'action. Alors, l'action, ça, j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait signifier, mais ça rejoint la question de qu'est-ce qu'une archive, en fait. On disait le corps est une archive, on disait il n'y avait pas que les objets ou les œuvres d'art, mais la soi-même, on l'est. De comment, et aussi comment, moi ça me parle pas mal, comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on fait là, les accents, tout ça. Enfin, donc la question de la pluralité de l'archive. Comment est-ce qu'on réussirait à archiver ces histoires-là sans être dans un cadre en permanence assez conventionnel. Et surtout, se poser la question de est-ce que ça nous concerne ou pas ? Comment réussir à concerner tout le monde à l'intérieur de ça ? Parce que du coup, la question du pour qui est là. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour nous ? Hein ? C'est-à-dire, moi, des Outre-mer, ou est-ce que c'est pour des personnes issues de l'immigration ? Ou est-ce que c'est pour les Blancs ? Ou est-ce que c'est pour les institutions ? Voilà, c'était à peu près, moi, ce que j'ai noté qui n'a pas encore été dit.
Voilà. Bon, un autre groupe ? Je crois qu'il en reste deux, c'est ça ?
Je rajouterai. Voilà, donc bonjour. Pas grand-chose à dire, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont déjà été évoquées dans les groupes précédents. Quand on a dit quel nom donner à ce musée, le seul nom qui est venu, mais ça va cogiter. On a parlé d'anti-musée. Les premières choses qui sont apparues, c'est un musée pour quoi faire ? Re-questionner le roman national. Voilà, le récit national. Comment on se raconte l'histoire ensemble ? Comment on vit ensemble et quels repères on a ? Donc, il semble qu'il y a une bonne part de la vie et du roman perso qui ne se retrouve pas dans le roman national et qui serait bon que ça apparaisse. On a eu un petit débat sur la place de l'histoire et la place des artistes. Voilà. Donc, est-ce que c'est un musée, c'est juste pour raconter l'histoire et des artistes à compléter, hein, si vous ne reconnaissez pas dans ce que je raconte. Quelle est la place des artistes rapport à l'histoire racontée ? On a évoqué aussi l'idée qu'il faudrait que dans ce type de musée, dans ces musées, on puisse avoir accès aux archives. Je cite. On a questionné aussi qui accompagne, qui sont les accompagnateurs. Alors évidemment, on s'est mis dans le cadre des musées un peu tels qu'ils existent, conventionnels, institutionnels. Qui oriente en fait le regard ? Qui oriente le regard, par exemple, d'un public de collégiens, d'un public scolaire, voilà. On a évoqué, on s'est rappelé la visite qu'on avait faite du Modène noir, même avec un guide. On pouvait passer à côté de choses énormes, comme par exemple la date de l'abolition de l'esclavage, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, qui n'apparaissait pas flagrante dans la visite du Modène noir. On a évoqué aussi la question du financement, donc musée public ou musée privé, qui finance, qui raconte. Voilà, Catherine.
Je rajouterais aussi qu'on s'est posé la question d'un lieu central ou d'un lieu itinérant, enfin, d'un projet qui serait itinérant et qui irait aussi sur les territoires là où sont les gens. S'est posé la question de qui construit ce musée entre guillemets, hein, avec qui on le fait, pas simplement sur un point de vue financier, mais pour que du coup les gens se l'approprient, puisqu'on part du principe que c'est destiné à tout le monde, même si ça raconte des parties d'histoire différentes selon qu'on soit colonisé, pas colonisé, ex-colonisé, racisé ou pas racisé. Donc du coup, avec qui on pourrait faire en sorte qu'il y ait déjà un bout de chemin qui soit fait. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Donc, c'était des lieux plutôt hybrides. C'était des territoires c'était des endroits de production aussi, qu'il pouvait y avoir des choses qui soient posées, mais que ça puisse être des espaces où on crée, où il y ait des ateliers avec, je dirais, des artistes, des historiens, des gens de la vraie vie, du public qui serait susceptible de venir, mais que ce soit un lieu vivant, pour reprendre un peu sur les exemples du côté vivant que tu citais tout à l'heure, Françoise. C'est un lieu où aborder l'avenir. Quelqu'un a parlé de cette notion de métissage, société métisse, donc peut-être que ça mérite d'être, ça nécessite d'être travaillé, d'être raconté, et comment. Voilà ce que je rajouterais par rapport à ce que Mohamed a dit. Est-ce que vous avez d'autres choses ? Non ? Ok, voilà.
Merci. Nous, on est dans le groupe des canapés au fond. Et, ouais. Et donc, j'ai écouté un peu, j'ai pas tout noté, mais il y a déjà beaucoup de trucs qui ont été dits. Et ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'effectivement, il y a un manque d'histoire coloniale en général, qui fait que beaucoup de gens ne sont pas au fait de tout ce qui est décolonisation, puisqu'ils ne comprennent même pas ce qu'est l'histoire coloniale dans un premier temps. Et qu'ensuite, on a noté le fait qu'il fallait... on pouvait, un peu comme ce qui a déjà été fait avec Françoise lors des visites du musée du Louvre, c'est-à-dire revenir sur les détails de peinture qui sont déjà connus dans la culture française, on va dire, dans les grands musées, et revenir sur certains détails comme la présence de sucre dans un tableau du XVIIe siècle, etc., et recontextualiser toutes ces choses dans leur contexte historique colonial. Ensuite, mettre une présence humaine pour reconnecter les histoires des objets et les humains dont ils proviennent, c'est-à-dire que quand on voit une exposition sur le Bénin et les Dogons par exemple, reconnecter avec les humains qui étaient les Dogons en fait, qu'on puisse voir des images de ces humains, qu'on entende le langage, que ce soit pas simplement des objets comme déconnectés de toute humanité, mais qu'on puisse faire le lien. Et enfin, pour permettre au public de se connecter avec les œuvres aussi, il faudrait mettre en lumière les façons dont elles ont été acquises ou les financements qui ont permis la constitution de collections. Donc voilà, d'où vient l'argent, qui ont été les explorateurs qui ont récupéré tel ou tel objet, et en fait que tout ça pourrait servir voilà, avoir réellement un contact décolonial, on va dire, déjà avec les collections des musées. Et après, je pense qu'il y a peut-être quelques autres trucs que tu veux rajouter, non ? Il y a plein d'autres choses qui ont été dites, mais voilà.
Non, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de toute façon rassembler aussi toutes les notes qui ont été prises dans un document général qui sera envoyé à tout le monde pour qu'on voit, parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose ? Parce que là, il y a déjà énormément de choses sur la table. Alors, il y a évidemment l'histoire du corps et de la culture, la division qui est faite, la question de tirer plusieurs fils, la question évidemment de l'histoire coloniale, de ensuite les représentations, la question de la transversalité, surtout énormément. Re-questionner le récit national est arrivé à plusieurs reprises ici et là, et puis bon, kiffer, etc. Alors la question des acquisitions, quand on dit qu'on ferait notre musée, ce serait nous qui ferions la collecte des objets. Donc c'est nous qui serions, et donc on se poserait la question de qu'est-ce que ça veut dire collecter et qu'est-ce que ça veut dire de constituer une collection. C'est ça la question. Parce qu'il y aurait, il me semble qu'il y a deux choses. C'est ou faire la critique des musées actuels, donc comment c'est acquis, c'est mal acquis, hein, les objets mal acquis, et donc quelle forme de restitution. Mais si nous faisons un objet, c'est nous qui allons constituer cette collection. Et ça veut dire quoi constituer une collection, justement ? Donc c'est quoi de collecter ? Et donc là, on est dans peut-être une autre question. Ensuite, très souvent, j'entends historien-artiste, mais vous savez, dans les musées, il n'y a pas que les historiens et les artistes. Il faut imaginer d'autres disciplines. Parce que souvent, vous avez dit transdisciplinaire, mais ça veut dire de travailler sur quelque chose, par exemple, avec aussi des gens qui connaissent le monde du théâtre, le théâtre qui a été fait. Par exemple, disons, vous avez pris l'exemple, d'ailleurs, qu'on voulait vous proposer, des révoltes sociales de 2005. Bon, qu'est-ce qui a été fait ensuite, créé comme musique autour ? Est-ce qu'il y a eu du rap ? Qu'est-ce qui a été créé comme image ? Quelles images ? Des deux côtés, les images faites par les médias, puis d'autres images. Est-ce qu'il y a eu des pièces de théâtre qui ont été créées là-dessus ? Qu'est-ce qui s'est créé comme censure ? Quel récit a été fait ? Mais quels sont les autres récits jusqu'à aujourd'hui qui sont faits ? Est-ce qu'il y a eu du cinéma à ce sujet ou qu'il y a du cinéma qui sort de là ? Est-ce que Les Misérables de l'âge lisse, c'est quand même d'une certaine manière ce qui va sortir plusieurs années après ? Donc on voit déjà là, on n'utilise pas simplement, on utilise aussi des travaux de sociologues, des travaux d'associations, des travaux de psychologues, des travaux. On n'est pas simplement dans. Il faut faire attention que c'est pas histoire et art. Il faut vraiment faire attention de faire entrer toutes les disciplines, puisqu'on dit transversalité. C'est vraiment vraiment important, parce que sinon, on en a déjà parlé. Par exemple, dans le musée de Tervuren, ben vous avez les historiens, puis de temps en temps il y a un artiste contemporain qui intervient. Et comme si le fait qu'on a fait intervenir l'artiste contemporain, ben, remplaçait les questions un peu difficiles qui pourraient se poser. Pof, il y a un artiste contemporain qui est là, qu'on met. Alors que la question, c'est pas ça. C'est pas de demander à un artiste contemporain de combler la chose ou d'interpréter. C'est que nous devons participer à cette interprétation constante. Donc ça, c'est les questions. Je voulais juste préciser là-dessus. Donc il y a souvent d'autres disciplines. Et évidemment, donc de toute façon, la responsabilité qui se poserait si nous faisions un musée, si nous tous qui sommes là, je ne sais pas combien on est combien, Léonce, tu m'as dit, toi qui sais compter ? Cinquantaine, bon. 60. Bon, enfin bref. Si nous tous, aujourd'hui, nous devenions le comité d'organisation d'un musée, on deviendrait responsable des choix qu'on ferait. Nous serions les personnes qui font ces choix. Donc d'autres personnes pourraient nous dire, mais c'est vous qui avez décidé tout ça. Donc il y a bien un moment aussi, il faut prendre une responsabilité de quelque chose. Donc de toute façon, et c'est ces questions-là qu'il faut se poser à un moment donné. Et donc comment on continue à travailler avec les autres personnes qui ne feraient pas partie de ce comité, par exemple, à cet instant T. Donc voilà, et juste, je trouve que la question de partir d'un événement, c'est intéressant, mais je proposais dans le petit groupe à laquelle j'ai été à la fin, c'est que, en fait, si on faisait un cliché de la société française aujourd'hui, pour utiliser ce terme, un état des lieux, et que tout ce qui est là, ben, on fait quoi ? À partir de là, quelle histoire on raconte ? Comment on en est arrivé là ? Et donc, quels sont les fils qu'il faut tirer pour expliquer comment on en est arrivé là ? Pourquoi les villes sont construites comme ça ? Pourquoi il y a des territoires dits d'outre-mer ? Pourquoi il y a effectivement des villes qui sont des villes entièrement coloniales dans leur géographie ou dans leur nom ? Il n'y a pas un nom de, les noms de rue, les monuments qui sont là, les bâtiments, c'est tout célèbre. Une histoire qui, où nous sommes effacés, l'histoire donc de d'autres personnes. Et pas seulement l'histoire des communautés dites venues d'autres pays, mais même l'histoire des prolétaires de ce pays. Hein. Je veux dire, tout ce qui est effacé, l'histoire des femmes, des femmes à la fois françaises et celles qui sont venues et qui sont devenues françaises. Donc la question, c'est si on partait, on faisait un. Voilà, on mettait là. Bon, alors voilà, c'est quoi la France, là, ce qu'on appelle la France aujourd'hui, là. Et alors, et après, à partir de là, il faut raconter cette histoire. On commence comment? Comment on ferait? Parce que c'est à partir de là qu'on tire les fils, qu'on explique, et qu'on partirait. Et donc, l'objet, si on peut dire, de lequel on partirait, ça serait ça. Et donc, parce que c'est ça, dans cette société qu'on vit, et dont on se sent exclu. Exclu dans son récit national, exclu dans son éducation, exclu dans les manuels scolaires, exclu dans ses télévisions, son cinéma, ses représentations, exclu dans ses institutions, à l'université, exclu, ou une place comme ça, tout dans un coin. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un mouvement de réappropriation et de réparation. Je pense que la question de la réparation est extrêmement importante, de penser qu'est-ce que serait un musée de la réparation, comme ce qui a été proposé, à partir du moment de réparer justement une société complètement, en ce moment, extrêmement malade, on pourrait dire, au sens qui ne va pas bien, quoi, qui ne va pas bien. Donc voilà un peu, c'est vraiment très... On voit bien que quand on fait ce saut imaginatif, c'est-à-dire de ne pas partir de ce qui nous est imposé, du cadre qui nous est imposé, qu'on essaye de... On ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Donc si on sort de ce cadre dans lequel on nous impose et qu'on essaye d'aménager ou d'arranger le musée du Quai Branly, c'est impossible. Parce que même si on changeait les cartels, même si on racontait des histoires, l'architecture elle-même est problématique. Je veux dire, le bâtiment est problématique. Le bâtiment lui-même porte un message. Donc, par contre, qu'est-ce que ça serait pour nous d'inventer tout cela ? Donc justement, à partir de toutes les questions que vous avez posées, de toutes les remarques qu'il y a vous faites, extrêmement riches, je pense qu'on est vraiment, c'est ce travail-là, c'est ce saut dans l'imagination, et de ne plus être contenu par le cadre qu'on nous impose, et de dire, mais non, mais essayez de faire ça, arrangez-y. Non, nous, de faire ce saut d'autonomie. Ensuite, évidemment, qui finance tout ça ? Quand on en sera arrivé là, ça sera vraiment formidable. Si on commence à penser qu'on doit trouver des financiers pour faire notre musée, ça sera formidable. Mais on pourra faire des choses auparavant. Donc pour la prochaine séance, parce que je pense qu'il va falloir quand même... Ouais. Ah non, on a encore 10 minutes, super, formidable. Alors on a 5 minutes pour quelques remarques. Et puis après, on va parler de la séance prochaine. Est-ce qu'il y a des choses pressantes à dire ou à ajouter ? Il y a des notes qui ont été prises là sur la restitution générale. On va les mettre en forme et elles vont être disponibles sur DLA, la page Facebook de DLA, c'est ça ? Oui, bon, voilà. Bon. Et puis, donc à partir de là, déjà, avec toutes les choses qu'on a dites aujourd'hui, on pourrait imaginer la séance du 15, qui sera la dernière séance de 2019 de l'Université Décolonisons les Arts. Pardon, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Et je voudrais donc repartir de ce qui a été proposé. Si c'est accepté par tout le monde, le 15 décembre, on imagine une installation, donc ce n'est pas le musée, hein, une des installations de ce que serait ce musée, donc parce qu'on choisit une installation, c'est-à-dire un espace, un moment. Est-ce qu'on est tous d'accord pour partir des émeutes de 2005? Parce que quand même, c'est quelque chose qu'on connaît un peu, quand même, c'est pas trop ancien, donc c'est pas quelque chose qui nous exigerait d'aller lire des tas de trucs, et qu'on amènerait le 15 pour chacune et chacun d'entre nous quelque chose qui est parlant, un ou deux ou trois choses, hein, c'est pas seulement, mais des choses qui sont parlantes par rapport à ça. Ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être des livres, ça peut être des objets, n'importe quoi. Je veux dire, à quoi on pense, qu'est-ce qu'on pense qui serait essentiel à mettre dans cette installation? Et on les apporte, et le 15, on constitue cette installation collectivement, ici. On travaille cette installation, là on aura cet espace là, et dans cet espace là, on travaille cette installation ensemble. Ça peut vouloir dire qu'on peut dire un texte, par exemple, que quelqu'un choisisse de dire un texte, de dire un poème. Il faut faire attention, sortir de l'objet. Hein. C'est pas que les objets qu'on demande. Hein. Il faut faire attention de ne pas être pris par cette histoire d'objet. Ça peut être vraiment de lire un poème, d'apporter une musique, une image, des photos, des journaux qui ont été là, vraiment d'être assez inventif. Donc, de toute façon, il y a un mois. Et de faire ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Est-ce que ça semble productif, intéressant pour justement essayer de mettre en pratique, de mettre en œuvre tout ce qui a été dit aujourd'hui? Transversalité, pas seulement de l'objet, ne pas séparer corps et culture, la question de la mémoire et de tirer tous les fils, la question de l'histoire, le lien avec l'histoire coloniale et le racisme, qui représente qui fait quoi? Donc ça pourrait être les multiples représentations qu'il y a eu de cet événement. Les points communs. Bon, ça re-questionnera évidemment le récit national. Le financement, tout ça, ça c'est autre chose. Donc ça serait vraiment là d'inventer ça dans un moment. Donc de venir, et en fait, on n'aura pas donc de discussion, vraiment, la discussion, ça serait comment on met en forme tout ça. Donc ce sera un travail collectif. Voilà, moi j'ai apporté ça, je trouve que voilà, j'explique pourquoi, et donc après, ensemble, on dira, ça c'est plutôt là, ça c'est plutôt là, toi tu veux dire un poème ou un extrait de texte, tu te mettras là, tu le feras, il y aura des micros, tout ça, et on constituera ça dans les 2 heures de la dernière séance, pour justement essayer de voir ce que nous on ferait, de cet objet, pour parler d'objet, qui sont les révoltes sociales de 2005. Ça convient à tout le monde? Ouais. Voilà, merci, et merci encore aussi à l'équipe de la colonie de nous recevoir et de nous accompagner. Et merci à vous toutes et vous tous.